Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ? À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est
de Fréquence Mistral.
Et dans le magazine, aujourd'hui, nous sommes avec Marjolaine Baird, fondatrice de l'association ECO et cofondatrice de Low-Tech Lab. Nous allons parler aujourd'hui avec elle du projet Low-Tech Altitude, donc un projet qui se déroulera sur 2 ans, porté par ECO, mais également par Environnement et Solidarité. Et un premier rendez-vous a lieu les 3, 4 et 5 octobre 2025, donc tout bientôt, avec un festival qui est donc créé par ces deux mêmes associations, un festival, vous l'imaginez bien, sur les low-tech. Et évidemment, la première question, Marjolaine, va être de nous expliquer ce que sont ces low-tech.
Alors, les low-tech, c'est un mot parfois un peu compliqué, qu'on utilise par opposition aux high-tech, aux hautes technologies, pour parler finalement de systèmes techniques simples, sobres, et qui se définissent finalement par 3 critères. Premièrement, les low-tech doivent être utiles, elles doivent répondre à un besoin, donc on vient questionner est-ce qu'on a réellement besoin de cet objet-là. Et un besoin fondamental, ça peut être se nourrir, se déplacer, se loger, avoir accès à l'eau, à l'énergie, etc. Le deuxième critère qui définit la low-tech, c'est son accessibilité. On n'a pas besoin d'être un ingénieur ou d'être particulièrement riche pour pouvoir accéder à une low-tech. On peut la fabriquer, la réparer soi-même ou l'acquérir à moindre coût. Et puis le troisième critère qui définit une low-tech, c'est sa durabilité. Est-ce qu'elle est écologique, fabriquée avec des matériaux locaux, biosourcés ou issus du réemploi ? Est-ce qu'elle est peu énergivore, peu polluante, avec un faible impact carbone ? Donc finalement, plein d'indicateurs, plein de critères qui permettent de qualifier cet objet de réellement écologique.
Est-ce que vous auriez des exemples alors pour qu'on puisse visualiser ?
Alors des exemples emblématiques d'objets low-tech, ça peut être par exemple une éolienne pigote, un pédalier vélo qui permet de faire marcher une machine à laver ou un vélo smoothie. Ça peut être un rocket stove qui est un cuiseur économe en bois et particulièrement efficient à la fois dans sa rapidité et puis aussi dans la consommation du bois. Ça peut être plein de solutions finalement accessibles, utiles, écologiques, qui sont des objets. Mais ce ne sont pas uniquement des objets, c'est aussi des savoir-faire et c'est aussi une démarche. Et une démarche qui peut s'appliquer à un projet, à un territoire, à une organisation. Donc derrière un objet low-tech emblématique qu'on peut vraiment toucher concrètement et comprendre de quoi il s'agit, il y a aussi une manière de faire les choses, des choix qui peuvent être faits derrière, dans une démarche low-tech, de sobriété, d'accessibilité, d'inclusivité. À l'échelle, par exemple, d'un territoire. Et c'est l'ambition du projet Low-Tech Altitude de s'approprier la démarche low-tech à l'échelle du territoire du Grand Briançonnais.
Mmh. Oui, donc de notre territoire, puisque vous disiez qu'il faut aussi des matériaux qui soient aussi locaux. Mais ça implique des savoir-faire qui sont très locaux, alors qui sont très adaptés à chaque territoire ?
Alors, en effet, on va avoir sur chaque territoire des ressources qui vont être différentes. Ça peut être des ressources matérielles. On va avoir tel matériau disponible, par exemple le mélèze, la pierre, ou alors des bouteilles plastiques dans les poubelles, parce qu'on a de plus en plus de richesses dans nos poubelles. Et on va aussi avoir des savoir-faire locaux, et notamment parfois des savoir-faire ancestraux, qu'on va faire se rencontrer avec de l'innovation et puis des solutions qui sont disponibles aujourd'hui, liées aussi au fait qu'on ait des matériaux qui sont disponibles aujourd'hui auxquels n'avaient pas accès par exemple nos grands-parents, comme la bouteille plastique, en largement disponible, et qui nous permet du coup d'inventer, de créer des nouveaux objets, comme par exemple du fil plastique extrêmement solide, fabriqué à partir d'une bouteille plastique qu'on a tout simplement découpée avec une lame de cutter, et avec lequel on peut réparer des meubles, faire du fil à linge, etc. Donc, où le bouchon de la bouteille plastique va permettre de faire une petite boîte pour faire un cendrier de poche ou un pilulier pour ses médicaments dans sa poche, par exemple.
Mmh, d'accord. Et donc, les low-tech ne sont pas, comme on pourrait parfois l'imaginer ou l'entendre, un retour en arrière à des techniques qui ancestrales. On a dit, il y a aussi ça, mais ce n'est pas que ça.
Oui, on vient questionner en tout cas un mode de surconsommation actuel. Et le fait qu'on n'ait peut-être pas besoin d'être entouré d'autant d'objets ou d'avoir une telle consommation énergétique, notamment en énergie non renouvelable. Donc il y a cette notion de sobriété qui peut nous ramener aussi à des modes de vie de nos grands-parents qui finalement étaient heureux avec moins.
comme on l'entendait dans Jean Ferrat, La Montagne, que nous écoutions tout à l'heure.
Par exemple. Et d'être plus dans la beauté, la qualité, et moins dans la quantité peut-être de consommation. Et puis dans l'appropriation, le fait de pouvoir soi-même être maître de ce qu'on fabrique et du coup savourer aussi davantage la valeur de ce qu'on consomme parce qu'on connaît le prix que ça peut représenter. Quand on doit pédaler pour faire marcher son ordinateur, on se rend compte de ce que consomme un ordinateur ou de ce que consomme un frigo. Et donc ça peut être une manière aussi de se sensibiliser soi-même à l'importance d'avoir un frigo plus petit. Tout simplement, c'est peut-être la première... Maintenant, il y a de plus en plus de frigos qui sont plus grands que les habitants de la maison ou qui donnent la date de péremption du yaourt. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un frigo qui nous donne la date de péremption du yaourt? Peut-être pas. Et on peut même aller jusqu'à des frigos du désert. En Maroc, on appelle ça les AirPods, par exemple, mais ça existe en Afghanistan, dans d'autres pays, qui sont des systèmes de conservation des aliments qui fonctionnent à partir de l'évaporation. Donc, c'est des pots en terre cuite. Et on humidifie le sable qui est autour du pot en terre cuite. Ça permet de faire diminuer la température au sein du pot central et donc des aliments. Donc c'est une technique parmi d'autres de conservation des aliments sans électricité. Ici dans le Briançonnais, traditionnellement, il y avait souvent un placard au nord-ouest de la maison qui était ventilé et qui permettait de garder au frais les aliments.
Ça, c'est quelque chose que vous avez retrouvé dans des anciennes maisons, que vous avez pu observer ?
Oui, bah, je l'ai, par exemple, dans la maison de ma grand-mère, je ne savais pas que ce placard était ventilé. J'ai mis mon huile d'olive et je me suis rendu compte qu'elle figeait. Et c'est là que je me suis rendu compte que le placard n'avait pas un fond identique au reste de la pièce et qu'il y avait une grille. Et en effet, le placard était au nord-ouest. Donc c'est une découverte fortuite.
Est-ce qu'il y a aussi du coup une volonté de se réapproprier les objets qu'on va avoir au quotidien ou les techniques qu'on va utiliser au quotidien ?
Tout à fait. Une des ambitions de la low-tech, c'est vraiment de renforcer ce pouvoir d'agir, le fait de gagner en résilience à l'échelle individuelle et aussi collective, de pouvoir soi-même réparer sa voiture, de pouvoir soi-même entretenir son logement, de pouvoir produire son énergie localement avec une ressource locale et d'être moins finalement dépendant de gros systèmes industriels qui peuvent être à l'extérieur du territoire et qui peuvent fragiliser la résilience locale.
Alors Marjolaine Baer, maintenant qu'on a expliqué ce qu'étaient les low-tech, j'aimerais revenir à vous et au projet que vous portez à travers aussi, enfin, et de vos associations. Déjà, peut-être un mot, qu'est-ce que sur ECHO, l'association ECHO, et puis ensuite peut-être quand même sur le low-tech lab.
ECHO, c'est une association qui a une dizaine d'années, enfin qui fête ses 10 ans, et dont on fêtera les 10 ans lors du festival, qui a pour objectif de croiser écologie et solidarité. De la même manière que les low-tech sont à la fois des systèmes techniques qui sont inclusifs et écologiques, ça permet d'avoir des actions concrètes sur le terrain pour agir avec tout le monde, pour répondre à des besoins essentiels de tout un chacun qui sont très différents selon les personnes et de le faire en plus avec les matériaux disponibles et avec les ressources disponibles et donc à moindre coût et accessible à tout le monde. Un des projets phares de ECHO, c'est le projet Low-Tech et Réfugiés qui agit depuis maintenant 6 ans en région PACA, à la fois à Marseille et à Briançon. Et qui organise, anime des ateliers, des formations qui sont ouvertes à toutes et à tous autour de la couture, le travail du bois, la réparation vélo, le jardinage, donc plein de savoir-faire finalement dont on peut avoir besoin pour répondre à ses propres besoins.
Low-tech réfugié, parce que vous disiez en même temps que c'était ouvert à tous, alors pourquoi mettre en avant ça dans le titre du projet ?
Parce que les personnes en situation d'exil ont énormément de besoins qui ne sont pas couverts. Mais c'est aussi des personnes qui ont plein de savoir-faire et qui ont du temps et qui peuvent finalement mettre à profit leurs compétences et leur temps pour répondre par elles-mêmes à leurs besoins, ne pas dépendre finalement de la générosité des associations et d'être dans une forme d'humanitaire beaucoup plus co-construite où on vient renforcer le pouvoir d'agir des personnes exilées en leur donnant la capacité de réparer elles-mêmes un téléphone. Alors qu'un téléphone, par exemple, c'est extrêmement essentiel. Quand on est en situation d'exil, on a besoin de pouvoir rassurer sa famille, de pouvoir avoir accès à un outil de traduction, se déplacer, trouver sa route, trouver un endroit pour dormir le soir. Et donc, avoir un téléphone, c'est essentiel. De nombreuses personnes ont soit un téléphone cassé, soit pas de téléphone. Et donc, par exemple, mettre à profit ses compétences de réparation de téléphone pour pouvoir avoir un téléphone, c'est non seulement extrêmement pertinent, utile, c'est accessible, c'est écologique. Et finalement, ça fait tout son sens.
Et en même temps, tous ces ateliers, toutes ces formations sont ouvertes à tout le monde.
Tout à fait. Le but, c'est qu'il y ait de la rencontre dans les activités qu'on peut proposer. Donc, il y a des Briançonnais, des Marseillais, des touristes, des personnes exilées qui viennent, se côtoient, parfois ne parlent pas la même langue, et puis par le bricolage, se montrent comment est-ce qu'elles raccommodent un jean et finalement, on tisse des liens. On apprend aussi à connaître son prochain à travers ces activités dont le sujet est la low-tech, mais qui permettent aussi de créer du lien social avec des publics qui parfois n'ont pas l'occasion de se côtoyer.
Donc ça, c'était l'association ECO. Vous avez également cofondé le Low-Tech Lab. Qu'est-ce que c'est, rapidement ?
Le Low-Tech Lab, initialement, ce sont des projets pilotes et d'expérimentation. Je parlais tout à l'heure du Nomade des Mers, qui était un des projets qui était porté, incubé par le Low-Tech Lab. Il y avait l'Habitat Low-Tech, Low-Tech for Refugees, c'était un projet pilote du Low-Tech Lab. Et aujourd'hui, le Low-Tech Lab a pris une autre ampleur. Il y a énormément de personnes qui se sont retrouvées inspirées parce qu'on a pu expérimenter à plus petite échelle depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, c'est devenu un vrai mouvement à l'échelle nationale. Donc, le Low-Tech Lab est devenu une association centre des réseaux qui accompagne, appuie une communauté de Low-Tech Lab aux quatre coins de la France. Et donc, il y a de très nombreux territoires qui développent leur propre Low-Tech Lab, qui sont elles-mêmes des communautés qui vont diffuser la low-tech sur leur territoire de manière plus ancrée au territoire, mais appuyée par un réseau national.
Vous y êtes toujours dans cette structure ?
Oui, je suis investie dans l'accompagnement notamment de la transition du Low-Tech Lab vers ce rôle d'animation de réseau et moins porteur de projets d'inspiration. Et puis surtout, on va organiser ce festival pendant 3 jours à Briançon pour le grand public. Mais se suivront ensuite 3 jours sur lesquels on n'a pas forcément communiqué, mais qui sont réservés aux membres de la communauté Low-Tech Lab. Donc il y aura les passionnés du mouvement Low-Tech des quatre coins de la France qui viennent à Briançon pendant 3 jours pour le séminaire annuel suite au festival.
Belle transition vers le sujet du jour, maintenant que nous avons posé les bases de tout ce nouveau projet. Donc, je le rappelle, il s'appelle Low-Tech Altitude avec le L entre parenthèses. On imagine bien que c'est pour attitude et altitude parce que nous sommes à Briançon quand même. Donc, comment est né ce projet qui est porté donc, par ECO, mais également par Environnement et Solidarité ?
Alors en effet, Low-Tech Altitude, c'est un projet qui vient juste de commencer, depuis le mois de juillet. On a fait le choix de travailler ensemble pour le porter avec cette autre association qui est aussi ancrée sur le territoire du Briançonnais et qui a aussi cette conviction que environnement et solidarité vont de pair. Donc ça faisait sens, on va dire, de travailler ensemble. Et l'objectif de ECO, c'était vraiment que le sujet de la low-tech se diffuse et soit approprié par d'autres structures du territoire et de porter ensemble des activités, d'ateliers, de formations de low-tech, comme ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui, notamment dans le cadre du projet de low-tech et réfugiés, mais du coup à une échelle vraiment territoriale et avec plusieurs acteurs impliqués sur l'organisation des activités.
Et donc, c'est un projet qui va durer 2 ans parce que c'est un projet leader, c'est ça ?
Exactement. C'est un projet qui voit le jour grâce à un financement européen, donc leader, qui permet le financement d'activités dans des zones rurales qui contribuent à la transition des territoires. Donc, c'est tout à fait le cas du projet Low-Tech Altitude qui vient croiser des problématiques sociales, écologiques, économiques à l'échelle du territoire du Grand Briançonnais. Et c'est comme ça qu'on le voit. On cherche vraiment à ce que la programmation des 2 ans d'ateliers de formation puisse se faire à différents endroits du territoire pour vraiment rayonner, toucher différents publics et être au plus près de notre contexte haut alpin.
C'est donc ça l'objectif de ce projet ? Ou est-ce qu'il y a un objectif ou plusieurs objectifs à présenter ?
L'objectif est vraiment de créer une dynamique à l'échelle locale. Donc le festival va y contribuer puisqu'il va permettre à la fois d'amener de la visibilité à des initiatives qui sont déjà existantes sur le territoire et qui sont très chouettes et vraiment intéressantes à mettre en avant. Et puis aussi de tisser des liens et de faciliter la collaboration, la coopération entre ces différentes initiatives, acteurs. Et puis de continuer à générer finalement de l'innovation parce qu'il y a énormément de low-tech, même pour revenir à la question des objets low-tech, qui peuvent vraiment faire sens sur ce territoire, qui aujourd'hui ne sont pas encore très développés. Et donc aussi d'encourager l'entrepreneuriat, encourager le mouvement low-tech à continuer à se développer au niveau local. On espère qu'au niveau niveau politique, il y aura aussi un portage, une volonté d'explorer tout ce potentiel et toutes les opportunités que la low-tech peut aussi amener au territoire. Le festival est bien évidemment ouvert à tout le monde et il devrait y avoir quelques élus qui viendront nous rendre visite pendant le festival. Donc ça peut se construire à l'échelle citoyenne, à l'échelle des entreprises, à l'échelle politique. Et c'est vraiment ça pour moi, faire mouvement à l'échelle d'un territoire.
Eh bien, je propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on se retrouve juste après pour parler de ce festival, de ce rendez-vous les 3, 4 et 5 octobre.
Passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages. Nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Auto-métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense. Et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord.
C'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Et nous venons d'écouter « Danser encore » de HK et les Saltimbanques. Vous écoutez Fréquence Mistral. Dans le magazine du midi, nous sommes avec Marjolaine Baird, fondatrice de l'association ECO, cofondatrice de Low-Tech Lab et aujourd'hui présente pour un projet porté avec une autre association du territoire Environnement et Solidarité, un projet qui s'appelle Low-Tech Altitude. Et donc, Low-Tech Altitude a un premier rendez-vous, on en parlait. C'est les 3, 4 et 5 octobre 2025, le festival qui porte le même nom. Un festival dédié au low-tech. Qu'est-ce que ce festival ? Qu'est-ce qui nous attend, Marjolaine ?
Alors, vous êtes bienvenue à ce festival. C'est un festival qu'on a vraiment pensé pour être ouvert à tout le monde, passionné, curieux, famille. Il y aura tout plein d'activités différentes qui seront développées autour des 3 jours. Donc, dès le vendredi soir, on va faire une petite inauguration du projet Low-Tech Altitude. Suivra la projection d'un film, L'éclosion Low-Tech, qui est une très bonne introduction au sujet de la Low-Tech et au mouvement Low-Tech. Et il y aura plusieurs protagonistes qui discuteront dans le cadre d'une table ronde suite au film. Le samedi, il y aura un forum d'acteurs toute la journée de 10h à 17h avec des stands d'acteurs du territoire autour de l'alimentation, la mobilité, l'habitat, l'énergie, avec plein de structures, d'associations, d'entreprises, d'artisans du territoire qui seront là. Il y aura différentes conférences, tables rondes sur l'habitat léger, sur l'open source. On pourra ramener son ordinateur et installer Linux. Il y aura un atelier pour fabriquer des sacoches de vélo à partir de bidons. Il y aura un coin lecture, des jeux. Bref, j'en oublie, mais vraiment plein d'activités toute la journée du samedi. Il y aura une conférence sur une expérience qui a été faite à Paris de biosphère au sein d'un appartement parisien, assez intéressante. Et puis, on aura un moment de réflexion tous ensemble pour imaginer ce que pourrait être un grand Briançonnais low-tech. Donc, développer notre imaginaire collectif. Et pour conclure la soirée, une pièce de théâtre. Il y aura aussi de la musique, des jeux, des activités. Voilà.
Vraiment, ça continue le soir.
Ça continue jusqu'au soir, jusqu'à 22h, donc vraiment 12 heures d'affilée.
C'est chargé. Et ce sont des conférences qui ont lieu tout au long de la journée. On peut
tout
assister
à fait.
À tout.
En parallèle. Voilà, il y aura en parallèle des tables rondes, des conférences sur aussi comment préparer son jardin pour l'automne. Vraiment plein de sujets divers et variés toute la journée.
D'accord.
Des quiz sur la sobriété énergétique. Voilà. Et le dimanche, donc là, c'est uniquement sur inscription. S'il fait beau, on fera une balade en montagne qui sera agrémenté de contes, de musique et de découvertes botaniques autour de l'usage et l'utilisation des plantes locales. Le rendez-vous est donné au début du chemin des fontaines, au pied de la Croix de Toulouse. Et si jamais il fait moche, on sera plutôt en intérieur. Pour le vendredi et le samedi, on sera à la Rura, au centre de vacances L'Archipel, dans le hameau de Chamandrin, à l'entrée de Briançon. Toutes les informations, vous pouvez les retrouver. N'hésitez pas à nous contacter.
Et pour le samedi, il faut s'inscrire ou pas du tout?
Pas du tout. C'est ouvert à tout le monde. Vous venez comme vous êtes. Prenez peut-être un peu d'argent avec vous si vous voulez participer à certaines activités qui sont à prix libre et conscient. Il y aura des crêpes fabriquées au Rocket Stove. On vous réserve une surprise pour les 10 ans de Eco le soir. Et il y aura un restaurateur sur place qui fera de la nourriture locale, bio, vegan, de saison, à petit prix. Donc n'hésitez pas à prendre quelques sous pour manger le midi et le soir sur place.
Donc,
et une buvette low-tech, évidemment.
Et une buvette low-tech. Et l'entrée, par contre, n'est pas payante.
Non, c'est à prix libre et conscient. Donc, chacun peut participer à la hauteur de ses moyens et de son envie.
D'accord.
Le but est que ce soit vraiment accessible à tout le monde, passionné comme curieux.
Très bien. Donc oui, c'est ouvert à la fois à des personnes qui peut-être ne connaissent pas du tout les low-tech, mais aussi pour des personnes qui connaîtraient déjà bien. Il y a quand même de la... On va dire de... de quoi se nourrir et continuer de connaître, d'apprendre.
Complètement. Il y aura vraiment les passionnés de la low-tech de toute la France qui seront là. Donc, il y aura à la fois des temps d'échange assez poussés et puis d'autres qui seront plus de la découverte. Il y aura par exemple une fresque des low-tech pour des personnes qui découvrent plus le sujet. Et puis, il y aura aussi des sujets un peu plus ciblés pour des personnes qui naviguent déjà dans cette transition, dans cette low-tech depuis quelque temps.
Et les invités viennent donc de partout en France. Vous parlez d'une expérience de Paris, mais...
Oui, de Bretagne, de Bordeaux, de Grenoble. Donc, il y a à la fois des intervenants qui viennent. Il y aura même des personnes qui viennent de l'étranger, d'Italie, de Belgique. Donc, il y aura à la fois des intervenants qui viennent de loin et qui amènent du coup vraiment une grande qualité dans les échanges qu'il y aura pendant le festival. Et puis, il y a aussi des personnes du territoire qui connaissent notre contexte, qui connaissent nos réalités. Et on va pouvoir vraiment s'approprier ces sujets avec nous, les personnes d'ici, finalement. parce que le but de la low-tech est vraiment d'être adapté, approprié à chaque territoire. Il n'y a pas de solution universelle qui serait la même partout dans le monde. Chaque besoin, chaque territoire doit développer finalement ses propres stratégies, ses propres solutions adaptées pour elle.
D'où cet atelier de réflexion sur le Grand Briançonnais.
Oui. mais pour aider aussi à se projeter, parce que finalement, c'est quand on imagine qu'on a le courage d'avancer. Parfois, on peut être abattu par la réalité du monde et l'actualité parfois déprimante qu'on peut entendre dans les médias. Et là, c'est aussi se réapproprier notre avenir et oser imaginer que ça puisse aller dans une bonne direction. Donc, c'est l'imaginer ensemble. Il y aura aussi une grande fresque de peinture où chacun pourra amener sa petite patte de couleur pour visuellement dessiner ce que ça peut être qu'un grand Briançonnais low-tech. Finalement, plein de manières avec les mots, avec les dessins pour se projeter dans cet avenir-là.
Et vous attendez du monde à cet événement ?
On ne sait pas, on verra bien. Bon, a priori, quelques personnes.
Au moins, on espère pour vous en tout cas. Mais...
Sinon, on mangera le gâteau tout seul.
Donc ça, c'est ce premier rendez-vous de ce projet dont on parlait. Est-ce qu'il y a déjà d'autres dates ou d'autres en tout cas ateliers, formations déjà que vous avez en tête ?
Oui, alors donc, le projet Low-Tech Altitude va durer 2 ans. Et donc, il y aura 5 formations, 10 ateliers qui seront échelonnés sur cette période-là, notamment une formation permaculture qui va durer 3 semaines. Donc, la permaculture est une méthode de conception, pas uniquement de jardinage, mais vraiment une méthode de design, de conception qui peut aussi être adaptée à l'échelle d'une ferme, d'un lieu, d'un projet, d'un territoire. Il y aura une formation d'une semaine à l'installation de panneaux photovoltaïques, qui est aussi quelque chose qui est nécessaire, on va dire, pour notre territoire. Des compétences qui sont manquantes avec une grande demande par ailleurs. Il y aura un atelier, le tout premier, qui sera sur l'électrification vélo, parce que quand on a des rues pentues comme les nôtres, avoir une petite assistance électrique réparable, appropriable, ça peut être extrêmement pertinent. On apprendra à fabriquer des marmites norvégiennes qui sont finalement des techniques assez simples pour permettre la cuisson de se prolonger dans le temps sans nouvel apport d'énergie. On peut gagner jusqu'à 70% d'économie d'énergie grâce à une marmite norvégienne. Il y a plein de manières de les concevoir différentes avec du tissu, avec du carton, du polystyrène, du bois. Donc on pourra tester ces conceptions-là. La fabrication aussi de cuiseurs solaires, concentrateurs, fours solaires. Il y a là aussi toute une gamme de techniques de cuisson solaire et on pourra fabriquer et repartir avec son propre cuiseur solaire. Ou aussi apprendre et découvrir la lactofermentation, qui sont des techniques de conservation alimentaire qui ne demandent pas d'énergie et qui ont beaucoup d'intérêt nutritionnel. C'est très bon pour la petite biote intestinale, en plus d'être très bon au goût. Donc voilà, plein de sujets, de savoir-faire différents qui vont pouvoir être explorés au cours de ces 2 ans et voir plus.
Et ces ateliers, ces formations durent combien de temps ? C'est une journée, une semaine ?
Souvent, les ateliers, c'est plutôt sur une journée, mais ça peut aussi être sur 2 jours, sur une demi-journée. Donc, ça dépend de ce qu'on va fabriquer. Par exemple, l'électrification, il faut une bonne grande journée pour électrifier son vélo. Donc, on arrive avec son vélo non électrique et on va ajouter le système électrique sur le vélo. Donc, on vient amener de la transition sur son ancien vélo, on va dire, et pas acheter un nouveau vélo électrique dont la batterie va peut-être mourir plus tôt que le reste du vélo et qui va finir au rebut. Et puis, donc, il y a des formations qui sont plus ou moins longues en fonction de la compétence pour aller au bout, finalement, d'un savoir-faire qui soit assez cohérent. Pour la permaculture, donc la formation va durer 3 semaines, c'est assez long. C'est pour rentrer dans des standards internationaux. On appelle ça les cours certifiants de permaculture, le CCP, qui est le standard international en permaculture, dont ECO a déjà organisé une formation en permaculture à Marseille en 2021, qui avait été une grande réussite. Là aussi, avec un public assez ouvert, mixte. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer ce cours certifié de permaculture pour la première fois dans le Briançonnais pour notre public et notre territoire.
Donc, très adapté. C'est assez surprenant de se dire qu'on peut, en une journée, ressortir avec son vélo électrique quand on n'y connaît rien, qu'on ne bricole pas forcément. Ça peut surprendre et donner envie aussi, mais peut-être ça demande aussi d'être rassuré sur des compétences qui peuvent paraître inaccessibles.
Alors, en effet, ça peut faire peur quand on n'a jamais bricolé son vélo. mais l'objectif est vraiment que ce soit accessible. Il n'y a pas de prérequis particuliers. Et il y aura du coup un formateur, des personnes qui seront là, qui pourront accompagner et en amont pour avoir tout ce qu'il faut pour le jour J. Et après, le jour J, pour faire l'installation de son propre vélo soi-même, mais en étant guidé par quelqu'un.
Chacun apporte son matériel ou c'est vous qui fournissez le matériel sur place ?
Tout le monde apportera son matériel, mais on donnera des indications sur quel matériel avoir en amont.
Et ces formations sont payantes, gratuites, il faut s'inscrire ?
Il y aura certaines qui seront payantes, d'autres qui seront à prix libre et conscient. Et oui, l'ensemble de ces activités, contrairement au festival, sont sur inscription. Parce qu'on aura un nombre limité pour les ateliers et pour les formations de participants. Donc ça se fera uniquement sur inscription. Vous pouvez vous préinscrire lors du festival. Il y aura du coup la liste des différents ateliers et formations qui sont proposés au guichet d'accueil. Et donc vous pourrez déjà vous préinscrire pour ces formations et ces ateliers. Et puis, vous pouvez rester en contact avec Echo, rejoindre notre groupe WhatsApp, nous suivre sur les réseaux pour être au courant au fil de l'eau des différents calendriers, des activités qui vont être diffusées dans les prochains temps.
Donc, ce festival est quand même un moyen de vous rencontrer aussi et puis de se sensibiliser à ces questions, de découvrir pour éventuellement, au cours de ces 2 ans, pouvoir aller plus loin sur le territoire.
Tout à fait. Et rentrer dans un sujet, une problématique, une compétence de manière plus approfondie. Et le festival, c'est en effet pour ça qu'on l'a prévu vraiment au tout début du projet, pour être une entrée en matière, s'acculturer à qu'est-ce que c'est que la low-tech, découvrir finalement ce concept qui n'est pas toujours encore connu par tout le monde et faire de très belles rencontres.
Alors, vous disiez qu'on peut vous suivre, qu'il y a un groupe WhatsApp. Comment on peut vous contacter déjà?
Alors, si vous allez sur le site internet, donc asso-echo.org, echo.org, vous avez le lien vers les différents réseaux sociaux. Instagram, Facebook, LinkedIn, Mastodon, Blue Sky, etc. Et donc notamment les groupes WhatsApp. Donc il y a un groupe WhatsApp pour le Briançonnais que vous pouvez rejoindre automatiquement. Et vous pouvez aussi nous joindre par email. Vous avez aussi là l'adresse contact@asso-echo.org qui peut être facile. Et puis par téléphone au 07 83 91 59 52. Donc voilà, vous pouvez venir nous rencontrer sur le festival. Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez nous contacter et on sera très heureux de vous répondre et de vous proposer de vous joindre au mouvement.
On mettra des liens sur le replay de cette émission sur Fréquence Mistral pour que vous puissiez y avoir accès aussi facilement si vous n'avez pas eu le temps de tout noter aussi vite. Donc, ce projet sur 2 ans, plein d'activités, voilà, d'animation, de formation qui vont avoir lieu. Et ce festival, il y aurait peut-être une envie de le poursuivre si ça marche
C'est un gros travail d'organiser un festival. Donc, on va déjà organiser celui-ci, s'en remettre et on verra pour une prochaine fois.
Eh bien, rendez-vous donc les 3, 4 et 5 octobre pour ce premier temps du projet. J'aimerais peut-être, avant qu'on termine cette émission qui arrive à la fin, rappeler les livres dont vous nous parliez au début, Marjolaine, puisque ça peut être, maintenant qu'on a plus détaillé ce qu'étaient les low-tech, une bonne entrée en matière, même avant le festival.
Alors, les trois propositions que je vous fais, donc L'âge des low-tech de Philippe Biwix, qui est un ingénieur en matériaux, qui étudie le sujet en profondeur. Le livre Nomade des mers, en parallèle de la série documentaire qui parle davantage de cette expédition assez originale où on a documenté les low-tech. Et puis, l'ensemble des bouquins d'écologie pratique de l'édition Terre Vivante qui couvre plein de sujets différents et notamment S'unir pour une ville vivante.
Eh bien, merci Marjolaine Baird. Donc, je le rappelle, vous êtes fondatrice et coordinatrice à l'association ECHO, cofondatrice de Low-Tech Lab. Et aujourd'hui, vous portez avec l'association ECHO le projet Low-Tech Altitude, le L entre parenthèses, aux côtés de Environnement et Solidarité. Merci d'être venue nous présenter ce projet à notre micro, Marjolaine.
Merci à vous. À bientôt.
Et auditeurs et auditrices, merci pour votre écoute. Vous retrouverez donc cette émission en replay sur le site de Fréquence Mistral avec toutes les informations, tous les contacts et les livres, également les ressources. Bonne journée à toutes et tous.
Thank you. espace sur le camino. Pongo mis ojos en su dirección, cruzando el valle y abriéndose en el mar. Vertiente que entre mis manos bebí, mi pecho tu brillo va siguiendo. Corazón, cuánto quisiera encontrar la calma que vengo persiguiendo. Son cuatro.